Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Donne à tout homme qui te demande quelque chose, et si quelqu'un te prend ton manteau, laisse-le prendre aussi ta chemise. Chers sœurs et frères en Christ, c'est Jésus qui parle, qui s'adresse à ses disciples et donc aussi à nous, son Église. Ces paroles que nous venons d'entendre sont au cœur de son enseignement, mais comme souvent chez Jésus, ils sont exigeants, voire très exigeants. Elle nous invite à une démesure d'amour, un tel excès de bonté envers les autres, inclus envers ceux qui nous font du mal, que son enseignement nous semble, disons-le, impossible à mettre en pratique. Ses paroles ne semblent pas à la mesure humaine, tout simplement pas pour le commun de mortels comme vous et moi. Mais si nous avons le sentiment que le Maître nous demande l'impossible, que nous n'y arrivons jamais à mettre en pratique ce qu'il nous demande, cela ne pose-t-il pas un problème? On peut le formuler ainsi, est-ce que l'enseignement de Jésus est bien réaliste? Est-ce que son éthique est praticable pour les hommes et femmes ordinaires? Est-ce que nous ne sommes pas des héros de l'amour et si peu capables d'un tel excès de bonté comme dans ce texte? Est-ce que Jésus ne plane pas un peu au-dessus de la réalité humaine avec ces paroles-là? Oui, ces paroles, bien que nous pouvons adhérer à leur hauteur de vue, cet idéal d'un amour absolu, peuvent nous mettre mal à l'aise. Et dès lors, nous risquons de ne pas savoir que faire de ces paroles. Comment faire le lien avec notre vie? Pourtant, ils sont au cœur du message de Jésus. Il faut approfondir, il faut se confronter à ces paroles. Le protestantisme, depuis Luther, à interpréter ces textes de manière suivante. Ces paroles nous sont données pour que nous prenions conscience de notre incapacité de vivre selon la volonté de Dieu. Nous en sommes radicalement, fondamentalement incapables. Nous ne sommes pas des saints, nous ne serons jamais. Ces paroles nous invitent, dit Luther, à confesser notre péché devant Dieu. Et ensuite nous tourner vers sa grâce. Avec sa grâce et l'aide de son esprit, nous pouvons peut-être vivre une partie de cette parole qui nous rappelle d'abord que nous n'arrivons pas, que nous sommes des pécheurs devant Dieu. Cette interprétation dit des choses utiles et vraies à rappeler. Mais cette théologie du péché et de la grâce, clairement inspirée par l'apôtre Paul, est-ce qu'elle a aussi la pensée, l'enseignement de Jésus lui-même? Pas si sûr. Si je lis bien la pointe de la pensée de Jésus, pour moi, il est ailleurs. La cohérence du raisonnement de Jésus dans ce texte est ailleurs. Qu'est-ce qu'il est dit à la fin de tout ce passage sur l'amour des ennemis? Il n'est pas dit « Méditez donc combien vous en êtes incapables, combien vous êtes pécheurs, désespère de vous-même. » Ce n'est pas cela que Jésus dit à la fin de ce texte. Il dit plutôt « Regardez Dieu, comment sa bonté, sa compassion est grande, et pour tous les hommes. Il fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Il donne encore sa miséricorde et la vie à tous. » Malgré ce que sont les hommes. Et Jésus d'ajouter, soyez bons comme votre Père dans le ciel est bon, ainsi vous serez véritablement ses fils et ses filles. Vous lui ressemblez, parce que vous agissez comme lui. Tant pis pour Paul et Luther, mais Jésus voit en l'homme d'abord la dignité d'être fils et fille du Père céleste. Il fait appel à notre capacité de ressembler le Père, d'être un reflet de l'amour de Dieu sur terre, comme des êtres qui ont été créés à son image. Jésus nous invite à prendre l'amour de Dieu pour tous les hommes, comme modèle pour nous, pour notre amour, à nous tourner vers Dieu pour voir un amour plus large que de ce qui est d'ordinaire dans notre cœur, et ainsi d'élargir notre capacité d'aimer toujours à nouveau en regardant l'amour du Père pour nous et pour les autres. Jésus ne dit donc pas, et c'est essentiel aussi de comprendre, que cet amour d'aimer les autres, que nous l'avons en nous-mêmes. Non, Jésus dit, regardez le Père, élargissez votre cœur toujours à nouveau, en regardant Dieu, en regardant le ciel, ce Dieu qui a tant de patience pour ces hommes qui font tant de choses à travers, qui se disputent tant, qui viole tant la beauté de la création, où des femmes sont maltraitées, voire tuées, des enfants maltraités. Et ce Dieu a toujours de la patience avec l'homme, veut recommencer avec l'homme, le relever, le pardonner. Il a patience avec nous. Regardez cela. Regardez cet amour incroyable de Dieu, cette patience incroyable de Dieu avec chacun de nous. Nous qui font tant de choses à travers. Et Dieu est toujours là à nous accueillir à nouveau. Sa bonté est plus grande que tout. Jésus nous dit, si tu as vraiment médité, accueilli, contemplé, et je pense que Jésus l'a fait profondément dans sa jeunesse, dans sa vie, et dans plein de paraboles, il nous parle de cette bonté du Père, dans plein de paraboles. Jésus l'a médité lui-même, et Jésus nous dit, si tu comprends un petit peu cela, tu ne peux pas que changer ton comportement, ton regard sur l'autre. L'autre qui est aussi aimé de Dieu de cet amour-là. C'est vrai que Jésus met la barre très haut, parce qu'il le met juste dans le ciel pour nous. Il dit bien que regarde le Père pour savoir comment il faut aimer et être son fils et sa fille sur terre. Il met le barre très haut. Mais c'est bien la parole et la pensée de Jésus. Je pense qu'on touche même avec ça au cœur de la pensée de Jésus. Soyez plein de bonté, il termine ce texte avec cela. Soyez plein de bonté comme votre Père est plein de bonté. Et ainsi vous serez ses filles, ses fils qui ressemblaient le Père. Jésus met la barre très haute et on a l'impression que parfois c'est au-delà de ce que nous les hommes peuvent vivre. On dit, mais c'est le royaume de Dieu cela. Là, nous pouvons méditer que Jésus lui-même, à chaque instant de sa vie, va mettre en pratique sa parole si exigeante, jusqu'au bout. Là aussi, il y a beaucoup à méditer. Même le pardon des ennemis, d'aimer ses ennemis, Jésus accueille le Romain, centurion romain, ce qu'il est bon pour son esclave. Là où tout juif dit « sont nos ennemis », Jésus pardonne sur la croix ses ennemis. C'est-à-dire, dans toutes ces paroles si exigeantes de Jésus, qui nous dépassent au point de dire « c'est pas humain », Jésus lui-même l'a vécu jusqu'au bout. On pourra dire « mais c'est Jésus, le Fils de Dieu ». Là, je dirais, on va trop vite, en quelque sorte. Parce que Jésus aussi doit choisir la volonté de Dieu. Prier parfois toute nuit pour dire où il faut aller, pour aller jusqu'au bout de l'amour. Jésus est véritablement homme. Il n'est pas dans cette toute-puissance qui peut aimer ses ennemis comme ça. Ce sera mécomprendre, je crois, la vie du Christ. Si on ne comprend pas qu'à plusieurs reprises, Jésus prie toute nuit, demande à ses disciples de prier pour lui, pour qu'il va jusqu'au bout de l'amour. Mais lui, il y est allé jusqu'au bout de l'amour. Jésus nous propose des paroles humaines parce qu'il a tracé humainement lui-même un chemin dans l'histoire, au milieu des hommes, dans sa société donnée, toujours à réinventer dans notre société d'aujourd'hui. Mais c'est une parole que Jésus a mise en acte concrètement. Et quand nous regardons sa vie, nous comprenons mieux ce que c'est, la manière qu'il vit. Et en même temps, Jésus nous donne un horizon, il met la barre très haute, des regards de Dieu lui-même. C'est-à-dire, il nous donne un horizon vers lequel nous devons toujours être en route et tendre. Parce que vers l'horizon, on est en route. En même temps, on le voit. Donc, il est là. Et la parole de Jésus est comme un horizon. On voit où il veut nous mener. Parce que c'est une parole humaine qu'il a vécue lui-même. En même temps, il y a toujours cet dépassement, cet au-delà. Parce qu'au-delà de l'horizon, il y a un au-delà. Même dans le langage de Jésus, il s'est vraiment présent. Il y a souvent cette incarnation dans notre réalité humaine et un dépassement tout d'un coup qui, dans sa parole et dans sa parabole, ouvre à cet absolu de l'amour de Dieu. Quand Jésus est en même temps sont des paroles qu'il faut parfois comprendre dans l'esprit, pas toujours à la lettre. Attention avec Jésus, ne prenez pas toujours à la lettre. Parce que Jésus aime des images choc, des images qui provoquent, des images challenging. Quand Jésus dit « si ta main pêche, coupe-la », on comprend ce qu'il veut dire. Jésus ne veut pas dire « je pense qu'il faut couper sa main ». Quand Jésus dit « si ton œil t'amène au péché, arrache-le », on comprend ce qu'il veut dire. En même temps, ne prenons pas à la lettre. Je pense que dans certaines phrases de Jésus qu'on a lues tout à l'heure, si quelqu'un te demande ton manteau, donne aussi ta chemise, pas forcément à prendre à la lettre. La lettre tue, dit Paul, mais l'esprit donne la vie. Elle nous fait réfléchir. Et c'est aussi cette capacité de nous faire réfléchir la parole de Jésus qui est si forte. Parce qu'il exagère le trait. Parce que dans le trait, il y a quelque chose qui est aussi tout à coup de l'ordre de Dieu. Quand il dit, si quelqu'un te frappe, ça c'est la vie humaine. Ça nous arrive. Dans la vie, ça nous arrive, on va dire. Mais donner l'autre joue pour être frappé une deuxième fois, c'est que tout d'un coup, là, on est quasiment dans la réalité de Dieu. Dans cette deuxième petite phrase, il nous fait réfléchir à une toute autre réalité, un tout autre amour, tout en faisant réfléchir aussi comment, dans la violence, on peut peut-être sortir de la violence en réagissant autrement. Et dans les paraboles de Jésus, il y en a plein de paraboles qui commencent avec la réalité quotidienne. Et tout d'un coup, il y a un aspect, il y a quelqu'un qui a des salariés et qu'à la fin de la journée, il va payer tous le même salaire, ceux qui ont travaillé toute la journée, ceux qui ont travaillé la dernière demi-heure. Tout d'un coup, hop, il y a une dimension qui nous dépasse. Dimension de pardon, un maître qui pardonne énormément, mais quand on va voir le salaire qui pardonne à son serviteur, on est tout d'un coup dans une autre réalité, la réalité de Dieu. Le père qui accueille son fils, qui est tout raté et tout dépensé dans un pays lointain, il va organiser tout de suite une fête. On n'est plus tellement dans la réalité humaine, on est dans la réalité de Dieu, tout en restant dans la réalité humaine. Il y a une capacité dans la parole de Jésus de nous parler de notre vie et de nous ouvrir à un dépassement, à un amour plus grand. Et toutes les paraboles de Jésus, on retrouve cela. Je termine avec cela. La parole de Jésus est toujours ancrée dans notre réalité. en même temps, il invite toujours à un dépassement, avec un horizon qui est ouvert à l'absolu de l'amour de Dieu. Comme un horizon vers lequel nous pouvons toujours être en route plus loin, plus loin. Jésus lui-même, il a vécu cette parole si absolue qu'il est prononcée si souvent. Et là, on touche à quelque chose de la vie de Jésus extrêmement forte, belle, cohérente. Ce Christ qui a une parole si exigeante pour l'humanité, il a vécu lui-même cette parole jusqu'au bout. Déjà de son vivant, dans le village de Nazareth, je termine avec cela. Quand Jésus a pris la parole, pour la première fois dans la synagogue Nazareth, des hommes et femmes ont dit, d'où vient la sagesse de sa parole? Il nous parle de nous, de notre vie. Il nous parle de Dieu comme personne d'autre l'a jamais fait. Qui est-il, cet homme? Et nous qui savons que Jésus a vécu cette parole jusqu'au bout, en donnant toute sa vie, en pardonnant ses ennemis sur la croix, nous disons, qui est-il, Jésus de Nazareth? Amen.